bien.
On se retrouve samedi prochain à 19h pour d'autres collecteurs.
Oui, avec deux Belges qu'on adore. Virginie Hoc, Stéphane De Groot et un autre Stéphane, Stéphane Bern.
Faustine Bollard arrive juste après les infos. Passez une très belle soirée sur RTL.
Bonne soirée.
On refait la télé, même l'été, sur RTL.
Avec Éric Dussard et Jade. RTL.
RTL, il est 20h. Les informations, c'est avec vous, Charles Ducrot. Bonsoir Charles.
Bonsoir à tous. L'art et la manière. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France Femmes tout en s'offrant la dernière étape à Châtel. Une première pour une Française depuis Jeannie Longo il y a 36 ans. Jeannie Longo qui a d'ailleurs suivi ses performances présentes à l'arrivée. La championne olympique au JO de Paris rêvait de remporter le Tour. On retient ce soir cette image, l'émotion de la Française dans les bras de ses parents. Pauline Ferrand-Prévot qui a accordé quelques mots à nos confrères de France Télévisions.
J'ai pas tellement savouré, non. C'est vrai, je rêvais de gagner en jaune ce matin. J'ai dit au DS, si on peut essayer de gagner en jaune, on le fait. Ça a roulé vraiment, vraiment vite toute la journée. J'ai fait une erreur en début de course dans la première descente. Donc la journée n'avait pas très bien commencé parce que toutes mes coéquipières ont dû rouler pour me ramener. Je me sentais un peu mal vis-à-vis de ça, mais voilà, ensuite ça m'a servi de leçon et du coup je suis restée vraiment... devant et ouais, c'était pas facile parce que c'était assez tactique. J'ai mis la barre vraiment haute cette année pour préparer ce Tour de France et ça a été beaucoup de sacrifices, ouais. Et j'y pensais hier et on en parlait ce matin avec mes coéquipières, mais je me dis que j'ai pas tout ça pour rien, donc c'est une belle victoire et c'est une belle leçon de vie aussi.
Une belle leçon de vie, Pauline Ferrand-Prévot au micro de nos confrères de France Télévisions. Journée chargée d'émotions pour les Français. Pour finir en beauté, les mondiaux de natation à Singapour, Léon Marchand sur le toit du monde. Il décroche la médaille d'or aux 400 mètres 4 nages en 4 minutes 04, cinquième meilleur temps de l'histoire. Quelques minutes après, c'est l'argent que le roi Léon a remporté au relais avec Maxime Grousset, Yann Le Goff, Johan Endoy, Brouard, ou encore... c'est tout, relais du 4 x 100 mètres 4 nages. Notez que demain matin à 7h40, Maxime Grousset, double médaillé d'or cette semaine, sera l'invité de Vincent Derosier dans RTL Matin. Dans le reste de l'actualité, après la polémique, l'étudiante Gazaoui admise à Sciences Po Lille dans le cadre d'une bourse accusée de propos antisémites, a quitté la France pour le Qatar, annonce ce soir le ministre des Affaires étrangères. Elle n'avait pas sa place en France, dit Jean-Noël Barrot dans un message posté sur les réseaux sociaux. Le Quai d'Orsay qui précise également que l'étudiante est en envoyé au Qatar pour poursuivre également ses études. Les recherches ne reprendront pas à Gravelines dans le Nord. Un garçon de 13 ans est toujours porté disparu en mer. Selon les informations de notre correspondant sur place, l'embarcation pneumatique sur laquelle il naviguait près d'une jetée a chaviré. Avec à bord deux autres jeunes garçons de la même famille, eux ont pu rejoindre la côte et ont pu être secourus. Tous les trois étaient partis s'amuser, échappant à la vigilance du père et de l'oncle. Les chances de retrouver ce jeune homme sont désormais très mince, indique la préfecture. La météo pour votre lundi. Le soleil s'imposera sur les deux tiers du pays. Au nord de la Loire, ce seront les nuages qui domineront, avec une grisaille persistante le long des côtes de la Manche où quelques averses seront possibles en fin de journée. Les températures seront en hausse, 13 à 16 degrés le matin, jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, comptez 21 à 23 près de la Manche, 25 à Charleville-Mézières, 28 à Paris et Nice, 30 pour Lyon et Marseille, jusqu'à 35 degrés la maximale à Bordeaux et Toulouse. Enfin, les courses ce lundi seront à Dieppe, départ 18h. Alexandre de Koopman vous conseille de jouer le 14, le 5, le 8, l'As, le 15, le 11 et le 12. L'outsider d'RTL, le numéro 8, 20h03 sur RTL. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Faustine Bollard pour Héros. Très belle soirée sur RTL.
RTL.
Héros.
20h, 21h. Héros.
Faustine Bollard sur RTL.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Héros, votre rendez-vous chaque soir à 20h sur RTL. RTL.fr, vous êtes très nombreux à nous retrouver en podcast. Merci pour votre fidélité. J'aimerais vous présenter mon premier invité ce soir. Arnaud a eu plusieurs vies. Il a évolué dans des univers diamétralement opposés et plus d'une fois, il a tout plaqué du jour au lendemain, mais depuis plus de 10 ans, il a trouvé sa voie grâce à une rencontre qu'on pourrait qualifier d'un peu mystique. C'est plein de mystères, mais parce qu'on va s'amuser un petit peu. Peut-être que vous allez deviner quel a été le destin d'Arnaud. Bienvenue sur RTL, tous les soirs à ce micro. Nos héros, c'est vous.
Oh, we can be heroes. Just for one. Monday.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Faustine.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que quand on vous dit que vous avez une vie complètement folle, vous vous retrouvez dans cette définition-là ?
Pas vraiment en réalité, parce que c'est un tempérament, c'est un état d'esprit. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça et en réalité je suis toujours surpris justement par les gens qui eux n'osent pas.
Parce que vous avez eu l'audace d'oser et l'audace a du pouvoir et de la magie dans votre cas. Juste peut-être que ceux qui vont nous écouter, votre voix va leur dire quelque chose et donc je vous invite à essayer de deviner à qui elle peut leur faire penser parce que ça a un sens dans l'histoire qu'on va vous raconter. Mais d'abord, si on vous avait dit il y a 20 ans où vous en seriez aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez cru, Arnaud ?
A priori non, mais me connaissant, sachant que tout est possible, à la limite, pourquoi pas.
Quelle a été votre première vie, Arnaud ?
Ma première vie, voilà, je faisais des études et j'étais destiné à devenir ingénieur dans l'aéronautique.
Ouais.
Et puis finalement, au bout de 2 ans d'école, je me suis aperçu que manifestement, il y avait
l'ingénierie et vous.
Une erreur de casting, voilà. Pour la petite histoire, je vous fais une petite confidence. Ma sœur est décédée, elle avait 15 ans, j'en avais 13. Elle voulait être ingénieure dans l'aéronautique et je pense que ça a été une projection en fait complètement inconsciente. Je me suis dirigé vers cette voie-là en réalité pour elle et puis finalement...
C'était pas tout à fait ce qui vous coulait dans les veines.
C'était pas tout à fait ce qui m'épanouissait.
Alors qu'est-ce qui vous a épanoui par la suite ? Vous êtes lancé dans quelle carrière, Arnaud ?
Écoutez, tout s'est passé en une nuit, comme d'habitude.
Mais vous allez voir qu'à chaque fois, ça se passe en une nuit.
Exactement, et en une nuit, je me suis dit, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Et puis, je me suis dit, j'aime le sport, j'aime l'adrénaline. J'aime l'humain surtout, c'est ce qui m'avait manqué justement dans ce métier d'ingénieur. Et puis, j'ai envie de dire qu'en cochant toutes les cases, tout naturellement, le métier d'inspecteur de police, c'est... imposé à moi.
Pendant combien de temps vous êtes resté policier, Arnaud ? Première vie, on va les compter. On est à la deuxième vie, ingénieur, policier. Pendant combien de temps vous allez rester policier ?
Un petit peu plus de 15 ans. Je suis rentré dans la police judiciaire, j'avais 21 ans. J'étais très jeune pour ce boulot de PJ. Je me suis retrouvé en groupe criminel quasiment tout de suite. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans, les homicides, les viols.
On est très loin d'une carrière artistique, hein ?
Ah, on est très très loin, très très loin, oui. Et puis après, les stupes pendant quelques années.
Alors il y a eu une autre nuit ? Une autre nuit qui a tout changé ?
Oui, absolument. Oui, il y a une autre nuit qui a tout changé, exactement. Puisque j'ai envie de dire un petit peu que c'est une tendance générale, que ce soit dans le milieu médical, dans l'éducation nationale, tout ça. Il y a eu des bouleversements assez radicaux. Et j'avoue que moi, je ne me retrouvais plus dans mon métier d'inspecteur, comme beaucoup de mes collègues, que je voyais devenir de plus en plus aigri. Et moi, il me restait, je pense, une bonne vingtaine d'années à faire. Et j'avais pas tellement envie de finir comme ça, avec les yeux froncés et venir à reculons au travail.
Alors, deuxième vie donc qui va s'achever. Qu'est-ce qui va se passer pour que vous embrassiez une troisième carrière, qui n'est pas si loin de la deuxième, mais néanmoins un nouveau chapitre de votre vie ?
Ben oui, c'est ça. Parce que, comme je vous dis, je ne trouvais plus mon compte dans ce métier que j'avais connu et que j'avais adoré. Et tout naturellement, je me suis dirigé vers le métier de détective privé, puisque évidemment, à part des filatures et des enquêtes, je ne savais pas faire grand-chose d'autre.
Combien de temps vous avez exercé ce métier de détective privé ?
5 ans.
Ça vous a plu ?
Ah oui, c'est la liberté qui m'a plu, en premier lieu.
Et alors, une nuit, là encore, mais alors là, on va vraiment prendre un virage absolument radical, à l'occasion d'une filature vraiment particulière, votre vie va basculer, je dirais presque en 2 minutes 30. On va comprendre pourquoi dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still, I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say.
mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais, it's in your destiny, a need to disagree, when rules get in the way. N'oubliez jamais. For love or fame, it's all fair. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has this way, a need to disobey. It's in your destiny, a need to disagree, when rules get in the way.
Jamais Joe Cocker sur RTL.
RTL.
It's high noon in the West at Southern California's Big FM.
Tout l'été, juillet et août, revivez sur RTL les Good Old 60s comme sur les plages de Californie. Retrouvez-moi les vendredis, samedis et dimanche soir en beach party sur RTL de 23h à minuit.
I'm Wolfman Jack and you listen to George Lang on RTL.
Laurent Deutsch sur RTL, Entrée dans l'Histoire.
Demain dans Entrée dans l'Histoire, je vais vous raconter la vie d'un des plus grands explorateurs britanniques de tous les temps, James Cook. Et vous verrez que le Capitaine Cook, c'est pas qu'une boîte de sardines. Les voyages de James Cook, ce sera demain à midi dans Entrée dans l'Histoire sur RTL.
Entrée dans l'Histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France. Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes, héros.
Arnaud est notre héros ce soir. Il a eu plusieurs vies, Arnaud. Il nous l'a raconté tout à l'heure. Il a été policier, puis détective privé. Et donc, il y a quelques instants, je vous expliquais qu'à l'occasion d'une mission, il allait radicalement changer de carrière. Déjà, c'était quoi cette mission ?
Oh, c'était, très honnêtement, c'était une mission classique d'adultère sans grand intérêt.
Donc vous étiez quoi ? Dans votre voiture, en train d'attendre ?
Pas du tout. J'étais justement dans l'appartement de la cliente et je surveillais la sortie du Porsche de l'immeuble qui faisait face à leur immeuble à eux.
Oh, il avait une maîtresse en face ?
A priori.
Changer de sujet. D'accord.
A priori.
Il a fini par sortir de ce Porsche ?
Il a fini par sortir, oui.
Mais c'est totalement anecdotique dans l'histoire qui va nous intéresser maintenant. Et donc, à ce moment-là, vous allez me dire si je raconte bien. Vous êtes dans l'appartement de cette femme, et là, vous allez décider de mettre un petit peu de musique.
Les heures passent, effectivement, et oui.
Et il y a un CD qui a été un peu oublié dans le lecteur, et voilà ce que vous écoutez.
Dans le port d'Amsterdam, Il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.
Quelles émotions vous procure l'écoute de cette chanson de Jacques Brel ?
Mais je l'ai chanté un certain nombre de fois, je l'ai écouté un certain nombre de fois et j'ai toujours des frissons en entendant cette chanson et en entendant la voix de Jacques Brel. C'est une petite chanson de marin, comme il le disait lui-même, qu'il avait écrite pour son dernier Olympia, et je pense qu'il a été le premier surpris aussi à voir le triomphe que cette chanson a été. Moi, je ne suis pas marin, je ne suis pas hollandais, je n'ai absolument rien à voir avec cette chanson, et pourtant, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais...
Elle vous a touché en plein cœur.
Et il y a une magie dans cette chanson que moi-même, je ne m'explique pas.
Vous étiez déjà un amateur de Jacques Brel avant d'écouter cette chanson ?
Pas du tout.
Ce soir-là. Ah, pas du tout ? Ah,
pas du tout, non.
C'était quoi, vos influences musicales, vous ?
Mais moi, j'étais adolescent dans les années 80, donc j'ai grandi avec tous ces mouvements musicaux, la New Wave, le funky, etc., de cette époque-là.
Le hip-hop, le métal, rien à voir avec Jacques Brel.
Exactement, voilà, absolument. Je dansais le hip-hop, d'ailleurs.
Ah, c'est drôle. Et vous chantiez aussi, déjà ?
Ah, pas du tout.
Ah, rien à voir ?
Ah non, je chantais absolument pas. Non.
Et vos parents, ils vous faisaient pas écouter Brel ?
Donc j'ai grandi uniquement avec ma mère et puis ma sœur au départ, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ma mère aimait beaucoup les musiques de cette époque-là, et puis ça l'empêchait pas d'écouter du classique aussi et d'autres artistes, mais pas spécialement de la chanson française. Donc j'ai pas du tout été bercé, moi, par les Brassens, les Ferré, les Barbara, les Brel, etc., mais pas du tout, du tout.
Mais alors ce soir-là, vous écoutez cette chanson pendant cette filature, vous avez cette émotion. Qu'est-ce que vous en faites de cette émotion sur le moment ?
Ben écoutez, moi j'écris de la poésie depuis que j'ai 18-20 ans, donc je suis évidemment très sensible non seulement aux mots, mais aussi à la musique des mots. Et j'ai été complètement subjugué, complètement pris immédiatement par, je dirais en premier lieu, la profondeur des textes, mais aussi par cette interprétation, par ce Brel, que je ne connaissais pas spécialement, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait dans son interprétation quelque chose que je n'avais jamais entendu ailleurs. Machinalement, je me suis mis à chantonner comme ça, et j'ai été aussi le premier surpris de constater que ma voix se calait, je dirais, assez facilement sur la sienne. Et ça a été comme une évidence, immédiatement. Donc j'ai immédiatement su que j'allais, une nouvelle fois tout laisser tomber et me lancer à corps perdu dans cette aventure Brel. Mais en fait, sur le coup, je me suis enregistré.
On est toujours dans cet appartement.
On est toujours dans cet appartement.
Dans cette nuit improbable.
Toujours au cours de cette soirée.
Mais vous n'aviez jamais chanté avant ?
Non. Non, non, non.
Et ce soir-là, vous vous enregistrez sur votre téléphone, pourquoi ?
Pour en fait l'envoyer à ma mère, qui elle a un bon niveau de chant, elle fait partie d'une chorale, et qui m'a dit évidemment, quand je lui ai fait écouter le son, par téléphone, qui m'a dit immédiatement, oui, c'est Brel. Et là, j'ai répondu, non, c'est pas Brel, c'est pas moi.
Elle
c'est
vous
moi.
A confondu avec Brel.
Voilà.
Une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frostolosamment, 333 fois le temps de bâtir un roman.
Et alors, c'est vrai que la vie est bien faite, puisque c'est vrai que les gens ne nous voient pas, mais on va mettre évidemment votre visage sur tous les réseaux sociaux d'RTL. Vous ressemblez en plus à Jacques Brel. On vous l'avait déjà dit ?
Mais c'est ça, si vous voulez, c'est là que moi-même j'ai du mal à m'expliquer les choses, parce que depuis que j'ai 13-14 ans, les gens m'accostent dans la rue, me pointent du doigt dans le métro, les chauffeurs de taxi me demandent si je suis le fils de Brel, le boucher, le charcutier...
C'est vrai que vous lui ressemblez beaucoup, hein, c'est pas...
Oui, donc moi j'ai grandi avec « ça ne m'a jamais quitté ».
Votre destin était lié à celui de Jacques Brel, en tout cas.
On m'a toujours comparé physiquement à Jacques Brel.
Mais quand même, entre le moment où votre mère vous dit « je croyais que Jacques Brel était en train de chanter quand j'ai écouté ton son » et vraiment vous lancer dans une carrière, il y a un très gros pas, vous allez m'expliquer comment vous l'avez franchi. À tout de suite sur RTL avec Arnaud.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée. Le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir. Y en a même certains que ça ferait rire, et d'autres bien persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes larmes à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler.
De tomber, Benjamin Biolay était sur RTL.
RTL.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33. Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. RTL Midi, les auditeurs ont la parole.
Avec Pierre Herbulot.
Je vous donne rendez-vous à partir de 12h30 pour RTL Midi, avec une première demi-heure consacrée à l'actualité. Puis, entre 13h et 14h, c'est vous, les auditeurs d'RTL, qui faites l'antenne. Le standard est ouvert, vous avez la parole. Alors je vous dis à demain.
Pierre Herbulot vous donne la parole sur RTL. RTL vous accompagne tout l'été. Passez un bel été.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes.
Héros. Et c'est une histoire un peu folle qu'on vous raconte ce soir dans Héros avec Arnaud qui était en planque. Il était détective privé, il écoute un CD de Jacques Brel, il se met à chantonner et c'est la révélation. Vous décidez d'en faire votre vie. Ça veut dire quoi en faire sa vie, d'une nouvelle passion pour Jacques Brel? Parce que vous étiez détective privé, ça veut dire que vous avez fermé votre agence ?
Oui, oui, dès le lendemain, j'ai lancé la procédure de fermeture.
Dès le lendemain ?
Dès le lendemain, oui, oui.
Vous étiez père de famille ?
Oui, oui, aussi.
Comment elle a réagi, votre épouse ?
Très mal.
Bah, je peux comprendre.
C'est pour ça, l'histoire est merveilleuse, mais...
Il y a eu des dommages collatéraux.
Il y a eu quand même de la casse dans tout ça.
D'accord. Oui. Donc, vous avez fermé votre agence de détective privé. Pour faire quoi? Vous disiez quoi? Je vais chanter?
Je me suis mis à bosser, comme je fais toujours. Voilà, quand j'étais détective, ça restait quand même un nouveau métier. J'ai été également artisan, il a fallu apprendre beaucoup de choses aussi. Et dans ce nouveau métier de chanteur, il a fallu tout apprendre. Donc dès le lendemain, je suis allé à la FNAC, j'ai acheté tout ce que je trouvais sur Jacques Brel, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai commencé à apprendre les chansons, j'ai attaqué les cours de chant 2-3 jours plus tard, et j'ai travaillé tous les jours, ma voix, apprendre les chansons, travailler la gestuelle.
Donc vous ne vouliez pas, on est d'accord, quotidien. Vous ne vouliez pas, c'est incroyable. Du jour au lendemain, c'est ça que je trouve assez fascinant. On imagine que c'est un projet qui doit être mûri, vous non. Alors maintenant, quand vous allez vers quelque chose, vous y allez à fond. Mais votre ambition était de travailler en effet vraiment le répertoire de Jacques Brel pour en faire un spectacle autour de lui, ou est-ce que vous vouliez devenir tout simplement chanteur ?
Non, 6 mois après avoir découvert Jacques Brel, je me suis tatoué ici sur
le
poignet droit, je me suis tatoué Olympia. Et mon but, c'était d'aller jusqu'à l'Olympia. Et...
Alors, c'est pas un petit tatouage, hein. Je voudrais le dire, ça fait à peu près le tour de votre poignet.
À peu près le tour du poignet, ouais.
C'est-à-dire, votre but était de remplir l'Olympia.
C'était d'aller à l'Olympia, ouais. Ouais, je voulais refaire le même Olympia que Brel, son dernier Olympia. Et voilà, comme vous pouvez le comprendre, j'imagine, je suis quelqu'un d'assez, pas d'impulsif, mais d'instinctif. Et j'ai senti que ce nouveau parcours de vie était juste et que manifestement, je pourrais aller au bout, puisque très rapidement, je me suis confronté à la rue avec un petit micro, un petit ampli. Et puis là, ça a été le test.
Vous êtes vraiment allé dans la rue ?
Ah oui, j'ai commencé à chanter dans la rue, en bas de la rue Mouffetard, principalement.
C'est un film, votre truc, hein ?
Et puis, je me suis aperçu que ça fonctionnait, voilà. En une heure de temps, je me faisais à peu près 80 euros. Les gens me demandaient ce que je faisais là, si j'étais un professionnel qui venait s'amuser dans la rue. Et puis voilà, ça m'a donné confiance, donc de fil en aiguille, voilà, j'ai démarché les bars, les restos, les maisons de retraite, etc. pour atterrir d'ailleurs chez Michou.
Qui vous a ouvert les portes de chez Michou?
Une rencontre un peu folle, comme d'habitude. Pas une nuit, mais presque. Tiens, Michou va fêter son anniversaire au dancing de la Porte Maillot, je le connais, si tu veux, je te le présente, pouf. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à chanter 2-3 chansons, Michou m'a invité à sa table, et lui qui était ami avec Jacques Brel m'a rapidement proposé de faire des petits remplacements au cabaret dans un premier temps, et puis finalement, j'y chantais 3-4 soirs par semaine.
Il y a une histoire de destin quand même. Voilà. C'était quoi votre nom de scène ?
Écoutez, figurez-vous qu'en parlant de destin, je croise Laurent Delahousse dans la rue.
Et on l'embrasse, ouais.
Et je lui dis, je m'appelle Arnaud Ascoy, je chante Jacques Brel. Je vois qu'il est gêné, donc je commence à faire demi-tour en lui disant, écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé. Il me dit non, il me retient. Et il me dit, écoutez, ça fait 5 ans que j'attends l'autorisation de la famille Brel pour tourner un jour un destin Jacques Brel. Je viens de la voir, on commence le tournage dans 3 semaines.
Et il vous a demandé de participer à un jour un destin ?
Il m'a dit, tout est écrit, je ne peux rien vous promettre. Il m'a rappelé une semaine après, et 2 semaines après, j'étais en tournage pour un jour un destin.
C'est drôle. Et pourquoi Arnaud Ascoy alors ?
Pourquoi Arnaud Ascoy ? Parce que la première fois que je me suis retrouvé à chanter dans un théâtre, le directeur du théâtre, mon vrai nom étant Arnaud Bascour,
le directeur, ça rend moins bien, si
le
je peux me permettre.
Voilà, le directeur du théâtre m'a dit, moi c'est hors de question, je ne mets pas Arnaud Bascour sur une affiche. Donc il m'a laissé 24 heures pour trouver un nom de scène. Je suis rentré chez moi un peu paniqué, j'ai attrapé un bouquin sur Jacques Brel, j'ai feuilleté, et dans les dernières pages, je suis tombé donc sur ce fameux voyage aux Marquises, à bord de l'Ascoy, le voilier.
Ah, très
l'Ascoy.
Bien.
Et je me suis dit que c'était une jolie image.
Ça rend bien,
image.
C'est joli.
Arnaud Ascoy, ça sonne pas trop mal. Et puis, je me suis dit que c'était une jolie image, pour continuer à faire naviguer l'œuvre de Brel.
Et alors, quand est-ce que votre spectacle... Il s'appelle comment, votre spectacle ?
La Promesse Brel.
Et quand est-ce qu'il a vu le jour extrêmement concrètement ?
Concrètement, on avait monté le spectacle en 2019, en vue, justement, de l'Avignon, du Festival d'Avignon 2020. Alors, évidemment... confinement oblige, on s'est tous fait scier les pattes, si je puis dire. Donc on a attaqué le spectacle dès qu'on a pu. Donc c'est-à-dire maintenant ça fait 2 ans et demi, en 2021 ou 2022. Et voilà, donc on a commencé, on a fait les choses un peu à l'envers. On a commencé par Paris, ensuite on a fait la province, et puis là on est, je dirais, un peu à cheval entre la province et l'étranger, quoi, puisque là on revient de Suisse, et puis on a fait Tunis, et puis on était à Québec en début d'année.
Donc, et alors, voilà. Vous avez rempli l'Olympia ?
Oui, 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 absolument.
Incroyable. Ouais, quelle date ?
L'Olympia. Jacques Brel est mort le 9 octobre. On a fait le 8 octobre 2023.
Vous avez de la suite dans les idées. Évidemment, tout le monde a envie de vous entendre chanter. Extrait.
Dans le port de Perdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg, ou d'ailleurs enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu.
Vous étiez venu chanter sur RTL, c'est un extrait de l'émission. Est-ce que quand on vous dit que vous êtes un sosie vocal, ça passe ou ça passe pas ?
Non, ça passe pas du tout. C'est-à-dire que dès le départ, évidemment, j'ai été contacté assez rapidement pour participer à des plateaux de sosie. J'ai systématiquement refusé. Je ne me suis jamais considéré comme un sosie.
Pour quelle raison ?
Parce que j'ai l'impression déjà que ça m'est tombé dessus, c'est pas une démarche volontaire.
Vous n'êtes pas un fan à la base ?
Non, pas du tout. Et puis, j'ai pas un gramme de maquillage, j'ai pas un trait de maquillage, j'ai juste à mettre un costume sur le dos, à me coiffer, et puis c'est parti. Moi, je voulais réunir tous les ingrédients qui font que Brel est Brel, mais je voulais quand même garder ma personnalité et mettre aussi toute mon expérience personnelle, toutes ces vies dont on vient de parler, au service de l'œuvre de Brel, ce qui tombait très bien, puisque le producteur que j'ai rencontré, justement, voulait travailler dans cet esprit-là. Surtout, je ne veux pas Brel sur scène, je veux que tu restes dans l'esprit de Brel. Et
alors,
c'est exactement ce que je faisais jusque-là.
Alors, j'invite tout le monde à venir vous découvrir et vous applaudir dans votre spectacle La Promesse Brel, qui est en tournée dans toute la France et en Suisse. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous.
Eh bien, merci.
Vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter aussi, votre histoire.
Christine. Merci infiniment.
On se retrouve dans un instant avec notre deuxième héros. Il s'appelle Eric. Il est psychologue en soins palliatifs et surtout, il est passeur d'âme. Un autre personnage. À tout de suite sur RTL.
Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
C'était Dusty Springfield sur RTL.
RTL. RTL Soir.
Avec Gaël Giordana.
On se retrouve demain soir à 18h pour un tour complet de l'actualité avec un grand journal, les invités qui font la une, vos chroniques estivales bien sûr. RTL Soir, c'est votre rendez-vous à ne pas manquer pour rester informé tout l'été. À demain.
RTL Soir. Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes. Héros.
Nous sommes de retour sur RTL. Éric Dudouis est psychologue en soins palliatifs. Plus concrètement, il accompagne les patients malades en fin de vie. Mais ce psy hors norme, qui se qualifie lui-même de gros doudou qui apaise, est également passeur d'âme. Ce soir, il nous livre des fragments de vie partagée avec celles et ceux qu'il accompagne au seuil du grand voyage. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
C'est vrai que vous êtes un gros doudou qui apaise ?
On le dit, oui.
Quelle est la dernière patiente que vous avez accompagnée, Éric ?
C'était une jeune fille de 21 ans.
Elle s'appelait comment ?
Emma.
Pourquoi vous avez un immense sourire quand vous parlez d'elle ?
Parce qu'elle était immensément belle. Elle avait à la fois la trouille de mourir, et à la fois, elle me disait « parle-moi, comment c'est de l'autre côté ?» Et donc je lui disais ce que je pensais, et je lui dis « c'est pas la vérité, Emma, c'est ce que je pense. » Et je crois qu'elle était immensément... Je l'aime.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour. Vous vous attachez à toutes les personnes que vous avez accompagnées ?
Oui.
Il y a de l'affect énormément.
On ne peut pas travailler si on n'aime pas. On ne peut pas travailler si... Quand j'étais élevé par mon professeur de médecine, il me disait, tu mets la blouse, puis quand tu l'enlèves, eh ben voilà, tu peux rentrer chez toi. Il n'y a rien de plus faux. C'est la seule chose auquel, à Roger, je peux lui dire, c'est faux. Moi, je ne mets plus de blouse, parce que quand je rentre chez moi, je rentre avec eux.
À quel moment vous intervenez, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là du coup, parce qu'il est un peu froid, à quel moment vous rencontrez ces patients ? Est-ce que c'est à leur demande ?
Non, pas forcément. Souvent, c'est plutôt l'oncologue. On est d'abord le doudou de l'oncologue, qui lui s'affole dès qu'il... Enfin, s'affole. Il aime pas trop quand son patient pleure ou va pas bien.
Ah, donc vous l'accompagnez, l'oncologue, au moment où quoi ? Où il annonce...
Où il annonce des catastrophes.
Ouais.
Et après, ça se tisse un peu comme le vieux tricot de ma grand-mère. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Quand on annonce la catastrophe, comment vous faites ? Physiquement, vous vous rapprochez de la personne ? Vous expliquez après le passage de l'oncologue, vous êtes là physiquement et vous attendez que la personne manifeste ce dont elle a besoin ?
Non, je pense que trop de mots tuent les mots. Alors, je fais partie des psys qui pensent qu'on en met trop partout, des psys. Des fois, le silence, c'est vraiment ce qui nous guérit. Et j'attends tranquillement. Et pendant que j'attends tranquillement, je prie.
Vous vous souvenez de la première patiente que vous avez accompagnée, ou le premier patient ?
C'est pas tout à fait la première, mais c'est celle qui a orienté toute ma vie, c'est Sarah. Sarah est dans les livres. Et elle m'a poussé jusqu'au bout. Moi, avant, j'étais éduqué comme tous les psys, à rien dire de moi, à rien dire de ce que je pensais. Elle m'a dit, tu me fatigues, Eric. Dis-moi ce que tu penses.
Vous pensez quoi à ses côtés ?
Eh bien, j'étais obligé de lui dire, tu sais, je pense que mourir, c'est plus facile que naître. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Parce qu'elle venait juste d'être avocat, et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que notre vraie demeure n'est pas ici.
Ça lui faisait du bien ?
Ça lui faisait du bien. Et puis après, elle avait plus de cheveux, elle avait un peu grossi à cause de la cortisone. Et donc, je l'appelais mon petit Bouddha.
La dérision et l'humour font partie de cet accompagnement.
Par moments, mon humour me permet de supporter des choses qui sont quand même difficiles.
Pendant combien de temps vous êtes resté auprès de Sarah ?
2 ans.
2 ans, je pensais que vous interveniez, encore une fois je n'aime pas ce mot-là, mais dans la dernière ligne droite, elle, en effet, 2 ans, ça peut être une dernière ligne droite, mais 2 ans à quelle fréquence, Eric ?
Le service de soins palliatifs est à côté du service d'oncologie, et la fréquence, c'est la fréquence des chimios, donc elle, si je me souviens bien, ses chimiothérapies à l'époque, c'était de 5 jours toutes les 3 semaines.
D'accord.
Après, de temps en temps, elle venait entre, et puis un jour, elle m'a dit, tu sais, je t'aime bien, t'es bien gentil. Bon, j'étais plus jeune à l'époque. T'es bien beau, mais entre-moi à l'hôpital, j'en peux plus. Donc, on s'appelait.
Vous vous souvenez des derniers mots que vous avez dit à Sarah ?
Ouais. La dernière fois où je l'ai rencontrée, juste avant, on avait parlé d'une pomme. Elle m'avait posé la question de savoir si de l'autre côté, on pouvait manger une pomme. Parce que sur sa table de chevet, il y avait une pomme. Et bien sûr, comme un grand dadé, j'ai dit n'importe quoi. D'abord, je l'ai appelé du nom de ma femme, Martine.
Et pourquoi vous l'avez appelé du nom de votre femme, enfin?
Ben,
votre langue a fourché.
Eh ouais, Freud là-dessus, il n'a pas tout à fait tort des fois. Et puis je suis parti sur Adam et Ève, moi, les conneries. Et elle m'a ramené sur le péché capital quand même. Et elle m'a dit, mais vraiment, Eric, dis-moi s'il y aura le goût de la pomme. Et je lui ai dit oui. Alors quand elle est partie, j'ai juste prié et je lui ai juste dit, goûte la pomme pour moi, je viens pour la deuxième part.
C'est joli, c'est de la poésie.
Je ne peux pas vivre sans poésie.
Est-ce que vous avez porté le deuil? Est-ce que vous aussi, vous êtes en deuil quand un de vos patients s'envole?
Oui, je suis en deuil, mais je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues, mais je ne crois pas à les recherches qui disent qu'il faut un deuil d'un an et demi, etc. En fait, je suis tout le temps en deuil.
Alors justement, vous allez me dire comment on vit quand on est tout le temps en deuil. On se retrouve dans un instant, vous allez nous parler des autres Sarah de votre vie. À tout de suite sur RTL.
Il est temps de repartir à zéro, de ne faire qu'un avec soi, de ne plus vivre pour de faux. Si je me croisais, enfant ou ado, je me prendrais dans les bras, je dirais sois ton propre héros. Fais du bruit pour mieux entendre tes rêves. Les réponses que tu cherches se trouvent dans ton écho. Si tu tombes, sache que dès que tu te relèves, tes bleus traperont le ciel, alors regarde en haut. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. J'étais bloqué dans un tunnel sans fin, mais c'est dans le noir complet que la lumière fait son chemin. J'ai coulé pour trouver le sable fin, les étoiles naissent en secret, le soleil revient chaque matin. Tu portes des mondes entiers sous tes paupières, mais tes yeux seront ta porte vers les lendemains. T'as touché le fond pour laver tes poussières, mais ce vide a fini par colorer ton destin. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour.
C'était Nouveau Jour, générique de la toute nouvelle série quotidienne d'M6, Nouveau Jour, qui est attendue cet été. Merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter Oshi sur RTL.
RTL vous accompagne tout l'été.
Passez un bel été sur RTL.
Confidentiel.
RTL.
Anthony Martin.
On se retrouve chaque soir de l'été à 19h15 pour revivre et redécouvrir ensemble les destins hors du commun de celles et ceux qui vivent ou ont vécu dans la lumière. Ce sont de sacrées personnalités, des stars dans leur domaine, mais les chemins qui conduisent à la gloire sont souvent sinueux, semés d'embûches et de zones d'ombre.
RTL.
Confidentiel.
À demain, 19h15 sur RTL.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes.
Héros.
Notre héros s'appelle Eric. Ce soir, il exerce le métier de psychologue en soins palliatifs avec une approche très personnelle. Vous me dites, je suis toujours en deuil. Parce que un patient s'éteint, vous êtes en deuil, un autre, vous l'accompagnez. Comment on vit quand on est tout le temps dans le chagrin, finalement?
Alors,
ou dans le départ, ou dans la tristesse du départ?
Eh bien, pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un meurt, bon, d'accord, il y a les cris, il y a les pleurs, etc. Mais juste avant, il y a un bonheur incommensurable. Il y a un silence qui vaut toute l'épée du monde. Et la mort, pour moi, c'est juste une délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en deuil du fait que je suis encore là. Je suis un accoucheur. Eux, ils retournent chez eux. J'ai beaucoup de joie pour eux. Et j'ai beaucoup de chagrin pour leur famille, parce que c'est difficile pour leur famille. Mais pour eux, il y a une dame que j'avais adorée. On n'avait pas beaucoup parlé parce qu'elle a, mais elle avait mon âge à peu près. Véronique, et elle savait que qu'elle allait partir parce que son papa était décédé trois mois avant et elle attendait la naissance de sa petite fille. Quand la naissance de la petite fille a été, elle est partie. Et elle est partie avec un sourire. Et ça, c'était bien.
Vous avez toujours eu ce rapport à la mort, Eric, vous-même? Ou c'est pour guérir une peur que vous exercez cette profession?
C'était la question de mon analyste.
Ah bah écoutez, je suis là pour ça.
En fait, j'ai toujours eu ce rapport-là. Parce que quand j'étais petit, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est sa première question. Après, je me suis dit, mais je dois bien venir de quelque part. Ma maman me disait oui de mon ventre. J'ai dit, oh, ça c'est trop simple. Hein. Et je vais quelque part. Et donc j'ai fait théologie avant, puis j'ai fait ethno. Puis après on m'a dit, ça suffit de porter des plateaux de pizza, donc j'ai fait psycho. Et mon but c'était de trouver pourquoi on vivait ces vies-là. Des fois difficiles, des fois belles, des fois les deux.
Donc votre métier c'est aussi de donner un sens à ces personnes qui s'en vont peut-être trop tôt pour certains?
Alors, elles s'en vont jamais trop tôt. C'est horrible ce que je vais dire. Mais...
Ben oui, mais je comprends la joie aussi de savoir, mettre de la lumière sur ce départ. Mais trop tôt, quand il y a une petite jeune fille de 21 ans qui s'en va, comment vous essayez de lui donner le sentiment que c'était son heure, c'est ça?
C'est pas que je lui donne le sentiment, c'est elle qui le trouve. Si c'est moi qui lui donne, je suis un religieux. Je suis pas un religieux. Donc le but, c'est qu'elle le trouve. Je pense à Léa. Léa, elle avait 15 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était dans son fauteuil, plus rien marchait. Eh bien, on est arrivés ensemble. Et le rêve qu'on a eu, c'était plein de gosses qui s'amusaient à sauter dans de l'eau. Et Léa qui appelait son chien. Vrai ou pas, je sais pas. Et c'est pas bien grave. En tout cas, on a passé un bon moment.
Vous avez eu parfois des demandes un peu farfelues ou des personnes qui revendiquent une grande légèreté dans ces moments-là?
Ça peut être un mécanisme de défense. Mon travail à moi en tant que psy, c'est de repérer si c'est de l'authenticité ou si on est là pour... Un peu comme quand on était enfant, vous savez. Enfin, moi, quand j'étais enfant, on sautait dans la mer et on faisait comme si on était mort. Et c'est des jeux que font les enfants parce que c'est quelque chose qui est à la fois fascinant et à la fois terrible. Et des fois, il y a des êtres humains qui ont besoin de jouer un peu la comédie, etc. Mais pourquoi pas? J'avais un artiste il faisait visiter Marseille en étant artiste. Il était haut en couleur, celui-là. Mmh. Et on a ri.
Beaucoup.
Ah ouais.
Est-ce qu'on vous confie des secrets dans cette dernière ligne droite?
Bon, souvent, oui.
Quel genre de secret?
Alors, ça peut paraître, mais nos secrets, à nous les humains, c'est des petits secrets. Mais on y tient. Parce que c'est ce qui fonde notre identité.
C'est quoi des petits secrets pour
vous?
Des
petits secrets, c'est qu'on a aimé quelqu'un qu'on n'a jamais dit. Qu'on a peur de quelque chose qui n'est jamais advenu. Ou qu'à un moment... Quand on était petit, on avait volé un sac de bonbons et qu'on l'a jamais dit. C'est bête, hein. Mais c'est ça qui nous suit. En fait, un humain, ça ne cherche pas la justice, contrairement à la télé, ça cherche la justesse. Et à la fin de sa vie, on se demande si c'était une vie juste au sens de la justesse. On sait qu'on a fait des bêtises, surtout sur Marseille, on est des gros bêtisiers. Mais
un peu caricaturel, mais je prends.
Oui, faut prendre, parce que ce qui fait cette ville, c'est justement qu'elle est... On ne peut pas la définir. Mais en me baladant en Paris, avec mes yeux, je me suis dit, il n'y a pas de différence.
Un jour, vous êtes retrouvé à faire les ongles. Un
ouais.
Patient. Dans quelles circonstances?
C'était une dame, elle voulait qu'on lui fasse les ongles, etc. Puis la socio-esthéticienne n'était pas là. Et elle m'a dit, t'as qu'à t'y coller. Et je m'y suis collé. Mais bon, vous avez vu ma stature?
Oui, vous êtes un peu Hagrid, hein, on va dire. Hagrid dans Harry Potter. Vous êtes très grand, très costaud. Vous avez un catogan.
Elle avait les doigts rouges. On a un peu débordé. Qu'est-ce qu'on a vu?
C'est vrai que vous n'avez pas tout à fait l'allure d'un esthéticien.
Non, j'ai du mal. J'ai essayé, hein, j'ai du mal.
Vous y avez mis du cœur. Alors justement, votre métier est aussi d'accompagner les familles qui sont bouleversées. On va se retrouver dans un instant sur RTL avec vous, Eric.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes. Héros.
Et tu descends l'escalier. T'arrives en bas, la rue est là. C'est plein de bruit, d'odeur et de fruits défendus. Et c'est qu'un début. Et t'as pas tout vu. Allez, tape la lampe à main, tape la lampe là, tape encore une fois. T'as tout à choisir, tout à toi. Tape la lampe à main, tape la lampe là, tape encore une fois. Ça déboule de tous les côtés. Tu te surprends à regarder un bas de soie qui file au pied d'une inconnue. T'en es tout ému. T'as pas tout perdu. Allez, tape là dans ma main. Tape là, tape encore une fois.
Sur RTL,
we can be heroes.
Héros.
Alors, je sais que là, on vous surprend sur RTL. Éric Dudoit est notre invité aujourd'hui. Il est psychologue en soins palliatifs. Il est également passeur d'âme et auteur d'un très beau livre, D'une vie à l'autre, aux éditions Larousse. Pourquoi on vient d'écouter ce générique du film d'Astérix, ou même des dessins animés d'ailleurs? Pourquoi ça vous parle?
D'abord parce que depuis mon enfance, j'adore Astérix.
Ouais.
Et puis, j'ai toujours voulu être Panoramix.
Ça ne m'étonne pas.
Et à bras raccourcis, enfin, Chef, ça m'a jamais plu. Et Obélix, maintenant j'en ai la carrure, mais avant non. Et Panoramix, il m'a toujours passionné. Il était sage, il était posé, il donnait des graines aux oiseaux. Je connais tout, Astérix, j'adore.
Vous avez la recette de la potion magique ou pas?
Ouais.
Faut me la donner?
Je vous la donne, je la donne à tous les êtres humains. Riez le plus possible et soyez en joie, mais la vraie joie, pas la distraction. La vraie joie. Regardez une brindille, regardez une fleur, regardez une feuille, vraiment. Et vous allez voir que la vie est belle.
Est-ce que le secret médical perdure après un décès? Je donne un exemple, une personne que vous accompagnez vous confie qu'elle regrette, vous venez de m'en donner l'exemple, elle regrette de ne jamais avoir dit à sa mère ceci, à son père cela. Quand vous vous retrouvez face à ces familles, vous avez parfois envie ou vous pouvez vous permettre de vous faire le relais de sa parole?
Si et seulement si j'ai demandé la permission à la personne.
Ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez?
C'est très étrange parce que on arrête d'être psychologue, on est Hermès. Hermès, c'est un dieu bizarre. À la fois, il a des ailes aux pieds, mais en même temps, c'est le messager. Donc, si le roi n'est pas content, on le tue. Donc, vraiment, j'aime pas trop quand ça arrive, mais je le fais.
Et votre métier, c'est aussi d'accompagner ces familles en deuil. Est-ce que vous arrivez, eux aussi, parce que c'est une chose d'accompagner un patient, encore une fois, dans cette lumière que vous décrivez. En revanche, ceux qui restent, ils sont envahis de chagrin. C'est difficile de changer leurs lunettes à ce moment-là, au moment où ils vivent un deuil.
Oui, mais ensemble, on découvre le fait qu'on peut avoir une double association. Une association de joie, d'être toujours avec l'autre, et en même temps, lentement, de comprendre qu'il n'y a plus d'autres et que c'est terrible. La chair, elle manque tout le temps. Mais oui, on peut. Et si j'y arrive pas, parce que je suis pas ni un héros, ni un Superman...
Ni Panoramix.
Il y a d'autres psys, alors je demande à un collègue de m'aider. Et lui, il prend la famille, ou elle, et moi, le patient, ou le contraire.
Est-ce que vous avez des rituels avant de rentrer chez vous pour ne pas que ça impacte trop votre famille? Vous avez une femme, Martine? C'est ça? Et vous avez des enfants?
Une fille, Marion, adoptée, oui.
Est-ce que vous arrivez à vous nettoyer de ces émotions extrêmes avant de rentrer à la maison?
J'ai 45 minutes pour rentrer, donc je suis dans le brouhaha de Marseille, puis l'autoroute. Et comme ils conduisent comme des patates...
On les embrasse vraiment, les Marseillais, aujourd'hui.
Mais je suis un Marseillais, donc je conduis comme une patate, moi aussi. Vraiment. Et ça me permet de faire un peu de distraction et en même temps d'avoir le temps de prier. Moi, je prie pas un dieu en particulier, juste la source, juste la vie. Ça me fait du bien.
Et vous pleurez?
Ouais. Je suis un homme qui pleure. Et je pleure avec les patients et je peux pas évoquer Emma sans avoir une petite larme rentrée. Pareil pour tous ceux qui sont morts il y a pas longtemps. Aimer, c'est supporter le manque. Et là, il y a Christian Bobin. C'est le plus grand, je trouve. Quand il nous dit, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la beauté, tu m'as tant donné. Et tu m'as donné le plus beau des cadeaux du monde, le manque. Et ça, je bosse avec. Et après, quand je rentre chez moi, alors ma fille m'a fait deux réflexions. Une à l'adolescence où elle m'a dit « Toi, si on meurt pas, tu t'intéresses pas à nous.
» Une ado, quoi.
Une ado. Et la deuxième, c'est « Chut, faut pas faire de bruit. Eric médite.
» Est-ce que depuis le début de l'exercice de votre métier, vous avez une idée du nombre de patients que vous avez accompagnés dans l'au-delà?
Je sais pas. Mais je connais plus de monde là-haut ou là-bas qu'ici.
Ce sont vos doux fantômes?
Ouais.
Aujourd'hui, quand on fréquente autant la mort, quel regard vous portez sur la vie? Est-ce qu'il a changé ce regard au contact de cette fin-là, même si vous me dites que c'est un début? Et vous avez compris ma question.
Ouais, je la vois comme le poète qui nous dit que l'hiver, c'est la fin, mais il y a un printemps. Et je peux vivre cet hiver, parce qu'en moi, il y a le printemps, en germe.
Vous êtes un poète, Eric, et c'était un vrai plaisir de vous écouter. Tous ceux qui veulent découvrir cette approche, les souvenirs de vos patients, je les invite à découvrir donc votre ouvrage « D'une vie à l'autre » aux éditions Larousse. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous.
Vraiment, merci.
Merci à toute mon équipe qui écoute ces témoignages et les recueils sur RTL.fr avec autant de passion. Aude Pavani, Thèse Volet, Jennifer Bedjet, Céline Bonnet, notre réalisateur Marc Bisset. Merci d'être fidèle à RTL. Je vous embrasse.